Je voudrais parler des émotions. Parce que les émotions, on en a tous. Et on en a besoin. C'est pas que négatif, hein, les émotions, bien entendu. Mais en même temps, si on ne sait pas qu'est-ce qui motive les émotions, qu'est-ce que ça peut engendrer, des fois on n'a pas idée de ce que les émotions peuvent produire. Et puis si on ne sait pas les différencier aussi, parce qu'il y a différentes sortes d'émotions. Non seulement on peut se faire piéger à cause de nos émotions, mais aussi des fois on peut se culpabiliser, alors que des fois on a peut-être des émotions qui ne sont pas forcément négatives du point de vue de Dieu. Nous avons été créés par Dieu avec des émotions. Donc les émotions ne sont pas forcément mauvaises. L'inconvénient, c'est que parfois, elles vont se placer dans des endroits où elles ne devraient pas se placer. Par exemple, et d'ailleurs c'est très caractéristique de notre génération, on a l'expression en français « je le sens ». « Je le sens, je le sens pas ». Donc c'est un peu comme une intuition, c'est un peu comme je ressens, ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais en fait, des fois, ça ne repose pas sur des faits objectifs. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions sur ce qu'ils ressentent, et des décisions lourdes de conséquences, mais après, ils vont devoir gérer des situations qui, elles, sont objectives, et qui sont là, et on ne peut pas s'en débarrasser. Pour le dire autrement, les émotions ne pensent pas. Vous voyez, les émotions ne pensent pas. Donc on ne peut pas fonder son existence sur les émotions. Les émotions sont une réaction à une décision ou à une information. C'est-à-dire que les émotions sont c'est un réactif, mais ce n'est pas un meneur. C'est pas ça qui doit nous conduire. Et je prends un exemple simple. Moi, c'est quelque chose. Alors, ça touche les femmes, notamment. C'est quelque chose qui m'a toujours surpris, même avant que je sois chrétien, hein, parce que j'étais à Paris. Donc, Paris, on connaît ce qui peut s'y passer, Pigalle, les meneurs, ce qu'on appelle les macros, hein, c'est un phénomène impressionnant. C'est-à-dire que c'est des hommes qui vont séduire une femme, et une fois que la femme est séduite, cet homme va demander à ce qu'elle se prostitue. Si on l'avait dit à cette femme, va te prostituer un an avant, elle aurait toujours refusé. Pourquoi ? Parce que dans son cadre de référence, c'était impossible de se prostituer. Mais à cause des émotions, la personne va faire quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas envie de faire quelques mois avant. À cause d'un attachement émotionnel ou sentimental. Et donc du coup, on peut manipuler des gens avec les émotions. Même si on lui fait faire des bêtises. Alors ça peut être même en politique. On peut manipuler les gens par les émotions pour leur faire n'importe quoi. J'avais lu un livre il y a très longtemps, c'était un journaliste français dans les années 30, durant la montée du nazisme. Il avait été en Allemagne à un congrès du parti nazi où Hitler a fait un discours. Il était dans la foule, il ne comprenait pas l'allemand. Il a assisté à ça. Il s'est surpris au bout d'un moment d'être enthousiaste à ce qui était en train de se passer. À cause des émotions. Bon, après, il s'est contrôlé, il s'est, on va dire, repenti, entre guillemets. Oui, bon, il a vu, c'était. Mais il a été surpris de voir comment on pouvait être entraîné par un mouvement de foule, d'une certaine façon. Je me rappelle une autre fois, c'est plus récent, mais c'est la même stratégie que Goebbels, parce que c'est Goebbels qui avait organisé toute la propagande nazie, que ce soit la radio, les meetings, etc. Et Goebbels a fait des disciples, comme Madonna, par exemple, qui, lors d'un concert, elle chantait, et puis il y avait deux écrans de chaque côté de la scène. Il y avait, on va dire, l'écran du mal et l'écran du bien. Et donc, dans l'écran du bien, il y avait Gandhi, Barack Obama, Martin Luther King, etc. Donc, plein d'images de gens morts il y a longtemps ou vivants, parce que c'était pendant la campagne de Barack Obama la première fois, contre McCain, qui est un républicain. Et de l'autre côté, vous aviez Hitler, Staline, McCain, le républicain, le Ku Klux Klan. Vous voyez, c'est-à-dire que comment on communique un message, déjà en mélangeant les genres, parce que même si on n'est pas républicain, mais plutôt démocrate, on ne peut pas dire que McCain, c'est le Ku Klux Klan ou c'est un nazi. Mais ce qui est fou, c'est que la foule était là à huer ou à applaudir dans un mouvement de foule, à cause des émotions, en fait. Et peut-être que si après on discute avec la personne, on va dire raisonnablement, elle va dire oui, c'est vrai, t'as raison. Mais on peut faire des choses aux gens, on voit ça dans le processus du lynchage. Des gens qui n'auraient jamais été meurtriers individuellement, mais ils en sont à lyncher les gens parce qu'il y a un mouvement de foule. Ça se fait aussi dans certains mouvements religieux, voire même dits chrétiens, par un mouvement de foule. Et une des raisons, et pour ça je dis que les émotions étaient créées par Dieu, parce que une des raisons pour lesquelles Dieu a créé les émotions, c'est que c'est pour réagir à la vérité, c'est-à-dire que la vérité doit nous faire du bien, ou alors réagir au mensonge, et là c'est une émotion négative. Donc les émotions, quand elles répondent correctement, ça peut nous protéger, nous garder, ça peut nous faire ressentir des choses devant le mensonge ou la vérité. Mais la source, il faut regarder d'abord la source de ce qui produit l'émotion. Et notamment, on a été créé par exemple pour louer Dieu, pour chanter, pour dire Alléluia, le remercier pour des choses. Et ça suscite une émotion où on se sent bien. Et aujourd'hui, les concerts, en plus j'ai joué de la musique, je sais comment ça marche, hein, c'est une forme de grand-messe, en réalité. Parce qu'on a besoin de louer Dieu, mais comme on ne loue pas Dieu, on loue d'autres personnes. Et d'ailleurs, on appelle ça des idoles. Pas par hasard. Tu vois, lui, c'est mon idole. Mais il y en a, c'est juste un mot. Ils sont pas idolâtres. Mais il y en a qui idolâtrent des chanteurs, qui vont collectionner tout ce qui concerne quelqu'un, dépenser leur argent là-dedans, passer en boucle de la musique, enfin, même se changer de visage pour ressembler au chanteur. C'est phénoménal, le phénomène d'idolâtrie. Parce qu'on a été créé pour célébrer Dieu, et comme on a besoin de célébrer quelqu'un et d'avoir des émotions qui nous sont favorables, ben on va trouver un autre moyen. Et donc on va idolâtrer. C'est vraiment fascinant quand on étudie la nature humaine de cette manière. Donc, aujourd'hui, soyons conscients du fait que les émotions, en plus, on est comme une société où tout est fondé sur les émotions. La publicité, des fois, on va vous pousser à acheter quelque chose alors que vous n'en avez pas besoin, raisonnablement. Mais il y a une envie qui se crée. Par exemple, en plus, les hommes et les femmes peuvent être différents, malgré ce que le discours ambiant peut dire. Mais par exemple, chez les hommes, il y a cette soif de posséder, de contrôler, de posséder. Et quand les agences de marketing vous vendent une voiture, ça vous sert d'aller à un point A, un point B, et puis, voilà, c'est utilitaire. Mais remarquerez que la manière dont on vous présente les voitures, ce sont toujours des bijoux. Ça brille, il n'y a pas un brin de terre sur la carrosserie. En fait, c'est dans un rêve, parce que dès qu'elle est neuve, vous sortez du garage, on veut qu'il pleuve, ça y est, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'on veut posséder ce qui est beau à regarder, alors que ce n'est peut-être pas utile. Au niveau d'utilité, c'est attends, elle fait quelle motorisation, elles font combien au 100, est-ce que c'est j'ai besoin d'acheter une voiture aussi chère ? Mais on ne va pas jouer là-dessus, parce que sinon, on achèterait de l'utilitaire uniquement, et on ne dépensait pas assez d'argent. Donc il faut faire rêver les gens. Alors après, pour l'agente féminine, on va les séduire autrement. Mais en fait, les psychologues, enfin les publicitaires font de la psychologie. Il y a des psychologues dans les agences de publicité pour contrôler les gens d'une certaine manière. Donc c'est pareil avec les internets, les pictogrammes, etc. Donc, comme on est dans une civilisation de l'émotion, un autre exemple, les couples. Avant, et parce que le discours ambiant est anti-chrétien en général, on disait, voilà, avant, les mariages étaient forcés, la femme était assujettie, c'était des fois pour l'argent qu'on se mariait, pour les héritages. Bref, on nous dit que dans le passé, pendant des millénaires, c'était pas bien. Mais aujourd'hui, on est libre parce que, un, les adultes, je dis pas que je suis contre, hein, mais je veux dire, les adultes, quand ils se marient, ils n'ont plus besoin de demander l'autorisation des parents et tout, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ça marchera mieux. Et deux, on ne se marie plus pour des intérêts, la cupidité, l'héritage, tout. On se marie parce qu'on s'aime, l'émotion. Les gens le font. Est-ce qu'ils restent ensemble jusqu'à la fin d'existence ? Zéro. Pas vrai. Alors on va me dire, ce qui est vrai, il faut être objectif, avant le divorce était interdit. Donc évidemment, il n'y avait pas de divorce. C'est vrai. Et il y avait quand même des problèmes de couple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous aide, on nous met dans un environnement aujourd'hui, on nous dit que c'est l'environnement idéal, ça ne peut que marcher. Et en fait, ça ne marche pas plus. Pourquoi ? Parce que les émotions ne durent pas. On n'aime pas à 20 ans, je parle avec la même personne, on n'a pas la même relation quand on connaît la personne au bout d'un an, 5 ans, 10 ans. Et ce n'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est simplement différent. Mais comme là, et quand je dis que c'est différent, c'est moins émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour. C'est moins émotionnel. Et comme c'est moins émotionnel, c'est moins grisant. Et comme on veut vivre quelque chose de grisant, eh ben on s'en va. On veut qu'avoir le palpitant qui vibre. Tu vois. Et en plus, les films nous parlent de ça en permanence. Quand on regardait les films français, hollywoodiens en partie aussi, mais surtout français au niveau de la statistique, trouvez-moi un film où les valeurs familiales et la fidélité dans le couple est respectée de A à Z dans un film. Jamais. C'est souvent d'avoir des relations hors mariage. Et quand il y a mariage et adultère, où il y a tension, etc., c'est toujours négatif. Et donc on nous bombarde de ça en disant, voilà, il faut trouver des solutions pour être heureux, et voilà, on t'inculque ça. Donc, alors qu'en réalité, les relations sociales se construisent aussi avec la raison, pas uniquement avec les émotions. Les valeurs, qu'est-ce que je crois, quel est l'objectif, quel est le projet à court, moyen, long terme, etc., etc. Donc, tout ça fait qu'on s'embrouille un petit peu, on souffre, on ne peut pas les enlever, elles sont là les émotions. C'est pas, en soi, c'est pas un mal, c'est pas un péché. Simplement, je dois faire attention. Un truc qui est fascinant, par exemple, c'est que, homme ou femme, quelqu'un se lève le matin, il sait pas pourquoi, il déprime. Il n'y a rien de plus qu'hier. Donc, alors, s'il est dans une situation depuis des années, ça va pas, il déprime aujourd'hui un peu plus, on peut comprendre. Mais des fois, non, ça va, mais je sais pas ce que j'ai. Ouais. Et pourquoi je sais pas ce que j'ai? Parce qu'il n'y a rien d'objectif. Donc, on n'a rien à dire. C'est l'émotion qui est là. Donc on dit, je ne sais pas ce que j'ai. Mais ça ne va pas. Mes émotions ne vont pas. Lui, je ne le sens pas. Ah bon, qu'est-ce qui t'a fait mal? Qu'est-ce qui ne va pas être... Ouais, je ne le sens pas, lui. C'est complètement... Il n'y a pas de tout objectif. Tu vois? Donc à un moment donné... Parce que aimer, c'est aussi aimer par la foi. C'est-à-dire que si là, autour d'une table, il y a des gens. Il y a des gens, des personnes, donc vous êtes des femmes... Il peut y avoir des personnes que j'apprécie plus que d'autres, par la vue, par ce que la personne dit, par l'odeur, par le faciès, etc. Mais ce n'est pas juste, puisque c'est mon point de vue. Donc, je parle dans un cadre comme celui-là, c'est-à-dire où je suis plus ou moins neutre, je n'ai pas de relation particulière avec vous. Donc, si vous êtes, je suis là, je ne dois pas avoir de préférence, mais j'en ai. Et ça, ce n'est pas grave. La seule chose, je ne dois pas me soumettre. À ce que je suis. Je dois marcher par la foi et me comporter. Et alors dire, ah, mais c'est d'hypocrisie. Non, c'est pas d'hypocrisie, c'est de la justice. Parce que moi, je suis injuste. C'est moi qui suis injuste. Et encore une fois, c'est pas encore une fois, oh, je devrais aimer tout le monde pareil. Non, on a des goûts et des couleurs. C'est pas grave, ça. Simplement, je dois pas obéir à ça, à ce que je ressens. Je dois aller au-delà. C'est un peu le verset de la Bible où il dit Dieu fait exception de personne. C'est-à-dire que tout le monde est accepté. D'accord ? Nous, c'est pareil, si vous voulez. On laisse la place libre. Donc, c'est un jeu, c'est pas rigolo, mais vous voyez, c'est un jeu quand même émotionnel qu'on doit gérer. Et ce que j'aimerais vous communiquer, c'est quelques principes où nous allons voir ensemble certaines choses. Par exemple, la dépression. Est-ce que la dépression est quelque chose de positif ? Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Peu importe d'où ça vient, les causes, des fois il y a des causes qu'on peut comprendre. Des fois il y a des gens, comme disait ma maman, lui il est fatigué d'être bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, mais ouais, il est fatigué d'être bien. Lui. Donc voilà, il y en a qui exagèrent, et puis d'autres parce qu'ils sont un peu égoïstes, ou ils sont centrés sur eux-mêmes, puis d'autres, c'est vrai, ils sont dépressifs pour raisons chimiques, hormonales, factuelles, etc. Donc la dépression, ok, c'est une émotion qui est négative, on doit faire attention. En revanche, dans la Bible, il y a l'angoisse. Et l'angoisse est une émotion qui n'est pas acceptée, c'est pas bien en soi, mais que Dieu comprend. Il peut nous arriver d'être angoissé. Et ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez ? Et l'angoisse, en fait, d'abord, la dépression, c'est très souvent du découragement, C'est une préoccupation de soi et un désintérêt pour les autres. Le dépressif pense de moins en moins aux autres. C'est moi, je ne vais pas, et occupez-vous de moi. Donc, c'est là où ça devient un péché. Vous voyez, on peut avoir ce qu'on appelle la dépression de façon dans le sens large, mais à un moment donné, il faut faire attention. Il ne faut pas que ma dépression me contrôle. Et donc, je dois à un moment donné, par la foi, avec l'aide de Dieu, l'aide des autres, ne pas rentrer dans le moule du dépressif. Parce que sinon, c'est destructeur pour moi. Je deviens auto-centré sur moi. Et j'oublie les autres. Par exemple, que ce soit un homme ou une femme, mais une personne dépressive dans une famille ne s'occupe plus de la famille. Que ce soit la mère ou le père. Ouais. Donc en fait, ça fait du mal aux autres, la dépression. Par contre, l'angoisse, c'est quelque chose qui peut arriver. Quelle est la différence avec la dépression? C'est que l'angoisse, c'est une blessure qui est liée soit à la nouvelle de la perte d'un être cher. Donc ça, c'est une angoisse, c'est-à-dire c'est la peur du néant, du vide, quelque part, de l'absence. Donc ça, c'est une forme d'angoisse, parce qu'on ne peut plus contrôler. Tant qu'il y a de la vie, des fois, on ne peut pas contrôler, mais on pense qu'on va pouvoir quand même. La mort, là, on sait qu'on ne peut plus contrôler. On ne peut plus revenir en arrière. Ça nous est enlevé. Ou alors, c'est une agonie dans l'âme à cause d'une bataille spirituelle. Par exemple, Jésus... je vais vous lire le verset, le passage, c'est en Luc 22, 21-44. C'est quand il est dans le jardin de Gethsémané. Et il est dit, puis il s'éloigna d'eux, donc eux c'est les disciples, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Parce qu'il allait aller à la croix. Et donc il prie le Père que, si possible, il puisse éviter cette croix. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, donc en grec c'est angoisse en fait, étant dans l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. C'est-à-dire que là, lui vivait une bataille spirituelle et en plus il allait vivre la mort, alors qu'il est le prince de la vie, il est Dieu incarné. Et donc il a été dans une angoisse. Mais ce n'est pas un péché. Puisqu'il est dit de Jésus dans l'Épître aux Hébreux que Jésus était tenté en toutes choses comme nous sans jamais tomber dans le péché. Donc ça, par déduction mathématique, cette angoisse n'est pas un péché. Ce n'était pas un doute, ce n'était pas une amertume, ce n'était pas de l'égocentrisme. Preuve en est, c'est qu'il allait mourir pour nous. Donc il ne pensait pas à lui. Mais qui a envie de mourir? Personne. Qui a envie de souffrir comme il allait souffrir? Personne. Et lui qui avait toujours été en communion avec son Père, vivre cette rupture avec le Père, ça le mettait dans une angoisse, rien que de l'imaginer. Mais il n'était pas dépressif. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'il était encore concentré sur son objectif, sur la raison d'être sur la terre. Il savait pourquoi il était là. Donc émotionnellement, réagir à l'odeur de la mort, c'est normal, c'est une réaction pas positive, mais logique. Il n'y a rien de mal en soi, c'est protecteur d'être angoissé, parce que ça nous préserve en vie quelque part. Donc ça, c'est de l'angoisse. La dépression, on va même oublier tout ça. Tous les garde-fous protecteurs. Et du coup, on peut se détruire soi-même ou détruire l'entourage à cause d'un côté dépressif. Mais l'angoisse peut être là. Donc je dis ça parce que je ne le souhaite pas, mais il peut arriver parfois qu'on vive une forme d'angoisse. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus en communion avec Dieu. Preuve en est, Jésus était dans une angoisse. Ça ne veut pas dire qu'on va rester tout le temps comme ça. Et aussi, c'est normal que ce sentiment d'angoisse intervienne face à certaines situations. On n'est pas des pierres. Vous voyez, la vie avec Dieu, ce n'est pas de dire, oh, moi, tout glisse sur moi, j'ai confiance en Dieu. Non, ce n'est pas vrai. C'est une réaction émotionnelle, logique et normale. Mais où on a quand même un contrôle objectif sur ce qui est en train de se passer. Autre chose aussi... la culpabilité produit une émotion négative. Par exemple, et d'ailleurs, on le voit, quand je dis la culpabilité, c'est la culpabilité émotionnelle. Parce qu'il y a deux sortes de culpabilité. Il y a la culpabilité objective, ou je dirais juridique. Par exemple, tu n'as pas le droit de voler, tu voles, tu as volé, bah, t'es un voleur. C'est juridique, c'est la loi, c'est factuel. Et puis, mais tu peux avoir volé la tasse, par exemple, alors tu ne te sens pas coupable émotionnellement. C'est mince, je me suis fait prendre. Mais bon, si je devais recommencer, je recommencerais. Ça s'appelle une conscience cautérisée. une conscience qui n'est pas sensible au bien ou au mal. Et c'est pour ça que aujourd'hui, s'il y a 50 ans, on voyait un jeune de 15 ans vendre de la drogue, on dirait, non mais c'est pas normal. Mais aujourd'hui, oui, c'est normal dans les cités. C'est pas dire qu'on est d'accord, mais émotionnellement, ça ne nous touche plus. Pourquoi ? Parce qu'on s'est habitué. Donc, vous voyez, il y a... Et pareil pour la culpabilité. Le gars qui vole la première fois, il a peut-être honte d'avoir volé, mais s'il ne se fait pas prendre, il vole deux fois, trois fois, cinq fois, puis au bout d'un moment, il se sent plus coupable. Il sait qu'il est toujours coupable, c'est-à-dire que le 15e vol a le même prix que le premier vol. Mais, par contre, émotionnellement, il le ressent plus de la même manière. Donc, il n'a plus de culpabilité. Mais là où la culpabilité est mauvaise au niveau de l'émotion, c'est quand il y a une culpabilité injustifiée du point de vue de Dieu. Par exemple, j'avais prévu aujourd'hui de faire certaines choses. Je ne les ai pas faites. Ah, je me sens coupable. Non, objectivement, je n'ai pas atteint mes objectifs pour des raisons factuelles. On m'a interrompu, il y a eu des imprévus. Ou alors j'ai été feignant, j'ai procrastiné. Mais à ce moment-là, je dois me confesser, mais je ne dois pas me sentir coupable. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris la culpabilité pour moi. Il a pris mes péchés sur ses épaules à la croix. Donc ça ne minimise pas ma faute, mais je n'ai plus à me sentir coupable parce que le coupable, l'innocent était coupable pour les injustes. C'est notre substitut. Donc du coup, je peux, avec hardiesse, comme il dit dans l'Épître aux Hébreux, m'approcher du trône de la grâce, pas du trône de la culpabilité ou du trône du jugement. Je m'approche du trône de la grâce et je viens demander secours. Donc, ça me remet en question. J'avance, des fois je tombe, des fois je me relève, mais il n'y a plus la culpabilité. Parce que cette culpabilité, c'est en fait un sentiment d'indignité. Moi, j'ai été guéri de ça, mais pour vous montrer que le sentiment de culpabilité peut être complètement idiot et subjectif. Bon, je suis né dans une banlieue, pour ceux qui connaissent, Gennevilliers. Après, je suis pas né là, mais j'ai grandi à Gennevilliers, après Asnières et tout ça. Et à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas le RER, il n'y avait pas cette proximité entre la banlieue et Paris. Donc quand on vivait en banlieue, on était en banlieue, et on allait à Paris une fois par an, Galerie Lafayette, acheter les jouets de Noël, quoi. Voilà. Il n'y avait pas cette... Mais c'est le RER qui a beaucoup changé ça, où les gens de banlieue ont commencé à aller... Et donc, quand j'étais jeune, moi je me baladais dans Paris quand même, moi j'allais plus souvent, j'étais plus curieux, mais quand j'allais notamment Place Vendôme, je me sentais coupable. Parce que Place Vendôme, c'est là où il y a tous les grands bijoutiers, Van Cleef, Cartier et tout, et c'est pas mon monde. Et même, tu as le droit d'entrer et puis de regarder, mais là, non, je peux pas rentrer. Je suis pauvre. Tu vois ce que je veux dire ? Un sentiment de culpabilité. Ou alors dans un palace. Tu vois, tu dis, non, j'ai pas le droit. C'est un sentiment de culpabilité qui n'a rien d'objectif. C'est simplement un sentiment d'indignité. Et des fois, c'est ce qui se passe avec des gens qui viennent la première fois dans nos églises, dans la nôtre ou dans n'importe quelle église. C'est qu'en fait, on ne leur demande rien, ils visitent, ils sont curieux, ils ont des besoins, mais en même temps, on se sent coupable, on ne se sent pas à notre place. Tu sais, on est là, un sentiment. Alors qu'en fait, on dit bienvenue, c'est ouvert à tous, on dit bonjour comme... Ah mais, je ne suis pas à l'aise. Tu vas à un entretien d'embauche, tu te sens coupable, un peu, tu vois, alors que tu n'as rien fait de mal. Mais c'est un sentiment. Et ça, c'est pas de Dieu, ça. C'est pas de Dieu. Mais cette culpabilité, elle est née depuis la chute, en fait. C'est qu'on se sent indigne devant Dieu, en réalité, à cause du péché originel. Et donc, c'est autre chose. De la même manière, c'est des fois une autoflagellation. C'est-à-dire que quand on a tellement une mauvaise image de soi, qu'on se sent toujours coupable. Donc, tu as des enfants qui se sentent toujours coupables devant leurs parents, même si les parents ont 60 ans ou ils en ont 40. Mais le gars, il a 40 ans, il se sent comme un petit gamin, quoi. Je mérite une fessée. À cause de rapports un peu bizarroïdes dans la famille. Donc c'est une autoflagellation. Et ce qui rajoute à ça, c'est un peu comme la dépression, c'est que du coup, on va avoir tendance à se justifier. C'est « Ah, si je suis comme ça, c'est la faute aux autres. » Par exemple, Ève chute. Dieu va vers Ève. Elle se sent coupable. Elle sait qu'elle a fait une faute. Oui, mais c'est le serpent qui m'a séduit, qui m'a parlé. Après, Adam, Il se sent coupable lui aussi d'avoir mangé du fruit. Adam dit, oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Tu vois ? C'est-à-dire que le coupable va trouver un bouc émissaire. Or, nous, nous en avons un bouc émissaire. C'est Jésus-Christ. C'est lui le vrai bouc émissaire. Et donc, c'est lui qui ôte la culpabilité, en réalité. Et donc, on peut être délivré de la culpabilité et vivre en nouveauté de vie grâce à ce bouc émissaire. Si on doit pointer du doigt, de point. Parce que ce que j'ai pu vivre dans le passé avec ma famille, un instituteur qui pouvait pas me voir en peinture, peu importe, des copains de classe, je peux toujours pointer du doigt aujourd'hui, mais ça ne me guérira pas. Mm-hmm. En revanche, aujourd'hui, je peux pointer du doigt sur Jésus en disant « Jésus, t'as pris la faute, la leur, la mienne. » Et donc, il n'y a plus de coupable. Mm-hmm. En revanche, il y a une tristesse constructive qui, elle, est bien. C'est en fait, on voit ça dans 2 Corinthiens 7 ou dans d'autres passages, c'est la tristesse du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on a reçu le Saint-Esprit au moment du salut, et quand on ne marche pas avec Dieu, il y a une tristesse qui s'installe, qui n'est pas de la culpabilité, c'est de la tristesse, c'est une émotion aussi, mais ce n'est pas la même. En fait, c'est la tristesse, c'est qu'on voit notre état devant un péché, et du coup, cette tristesse nous pousse à changer de comportement. Le coupable... Des fois, il va rester dans celui qui vit la culpabilité, pour le dire autrement, il va rester dans sa culpabilité. Il ne changera pas. Il va blâmer les autres, il va se justifier en permanence. Mais, et ça ne le sauvera pas, il se sentira toujours coupable quand même. Par contre, celui qui vit une tristesse spirituelle, il y a la notion d'amour dans cette tristesse. C'est un peu comme si moi, si je fais du mal à quelqu'un que j'aime, on peut dire, oui, on va dire, j'ai honte, je me sens coupable. Mais en même temps, comme j'aime, je veux réparer. Tu vois, je ne veux pas rester dans cet état-là. Mmh. Donc cette tristesse me pousse à changer la situation, à demander pardon, à restaurer. Et donc ça, c'est une tristesse constructive, parce que si elle n'était pas là, je ferais du mal aux autres et ça ne me gênerait pas, même aux gens que j'aime. Donc la tristesse, du coup, devient, c'est un baromètre qui, lui, est bon. La culpabilité n'est pas un bon baromètre, la tristesse, ça peut être bien. Vous voyez ? Vous voyez un peu comment... Les choses, la différence, des fois c'est assez subtil. Autre chose aussi, une autre émotion, c'est des fois le ressentiment. C'est-à-dire que dans la Bible, je n'ai pas pris le verset là, mais vous savez, il y a un verset dans les psaumes, je crois, où il est dit qu'on ne doit pas se coucher sur notre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire que dans notre tête, avant de se coucher, on doit pardonner. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a eu le temps de parler à la personne, mais dans notre cœur, on ne vit pas avec une colère. Et moi, je crois que les nuits faites avec un sentiment de colère en s'endormant vont provoquer des choses dans l'âme, inconsciemment. Ou des mauvaises nuits, ou des mauvais rêves, ou des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, il faut s'endormir en paix, on va dire. Et donc, c'est important de ne pas se coucher sur sa colère. C'est très, très important de vivre ça. Et, or, le ressentiment, c'est une rancune qui consiste justement à laisser le soleil se coucher sur notre colère, et avec ce désir de vengeance. C'est ça, le ressentiment. Le prix doit être payé. Je vais en faire baver. Tu vois ? Dans le couple, on voit ça des fois. C'est-à-dire que des situations durent des mois, voire des années, parce que j'en veux à l'autre, et je me couche sur ma colère, et il va falloir qu'il paye. Donc, par mon comportement, je vais me venger, en fait. Et c'est vrai qu'on des fois, dans le couple, l'autre a tort, mais on a tort de réagir d'une mauvaise façon. Vous voyez ? Donc, il faut faire très attention à ça. En revanche, il peut y avoir ce qu'on appelle une sainte colère. Parce que devant le mal, on doit réagir. Tout comme Dieu, devant le mal, réagit. Il n'est pas... c'est pas un Dieu, vous savez, un peu... le Bouddha, le Nirvana, il bouge plus, il n'y a plus de... Dieu est bien, il va bien, quoi. Non, non. Dieu réagit à la colère, à la méchanceté. Donc, il y a une sainte colère. Et ça, c'est... la colère, c'est quelque chose qui... c'est une réaction à la sainteté de Dieu... une opposition à la sainteté de Dieu. Quand on fait du mal, et quand on voit le péché et des choses qui ne correspondent pas au caractère de Dieu, ça nous met en colère. Et ça, et alors on voit évidemment Matthieu 21, c'est connu, hein, quand Jésus rentre dans le temple et il renverse les tables, pour le dire autrement. Il est en colère. C'est pas un péché. Et il dit, ma maison de mon père, ce ne sera pas une maison de marchand ou de commerce. C'est une sainte colère. C'est-à-dire que le temple n'était pas prévu pour ça. Et donc, voilà, je renverse les tables. C'est intéressant parce qu'on a cette idée, Jésus, vous savez, les bras tendus, les cheveux longs, la barbe, le hippie un peu baba cool qui est là avec ses mains qui tendues. Mais pour renverser, il faut être costaud, il faut être musclé. D'accord ? Il y avait des stands là sur le parvis, il y avait du monde, il y avait des volailles, hein, il y avait des pigeons, etc., des animaux. Et il a tout renversé et tout, donc... Il a dû... voilà, physiquement, il était costaud. Il ne faut pas oublier qu'il était fils de charpentier. Donc voilà, c'était... puis il marchait beaucoup. Enfin, il ne devait pas avoir beaucoup de graisse sur lui. Donc il s'est mis en colère. Mais ça, c'est une colère normale. C'est normal qu'il y ait une colère, du coup, maîtrisée quand même, mais contre la sainteté de Dieu. Tu vois, des choses qui sont faites et qui ne devraient pas être. Une quatrième partie, je dirais, c'est la frustration. La frustration est une très mauvaise émotion. C'est quand on est... pourquoi ? Parce que la frustration, des fois, elle est liée à un constat qui est peut-être objectif, mais on pense qu'il n'y a pas de solution. Donc on est frustré. Vous voyez ? C'est, y a un manque, et ce manque pourrait être comblé d'une manière ou d'une autre, mais en fait, pour une raison ou pour une autre, comme on ne voit pas de solution, ou comme on ne veut pas accepter certaines solutions, on ne fait plus rien, on est comme... prostré, mais frustré. Et donc, du coup, cette émotion perdure. Il y a une frustration. Par exemple, il y a des gens qui peuvent être frustrés toute leur vie parce qu'ils n'ont pas fini leurs études. Vous voyez ? Soit ils n'ont qu'à les terminer, soit, si ça n'a pas pu se faire, qu'ils passent à autre chose, mais qu'ils ne restent pas frustrés. Ce n'est pas productif. Oui, j'ai peut-être fait une erreur, ou oui, mes parents ne m'ont pas payé les études que je voulais, mais on ne va pas vivre dans la frustration, ça ne sert à rien. Et du coup, si je suis frustré, ça va alimenter des émotions négatives. Un frustré, il n'est pas épanoui, hein, frustré. Et donc, on n'essaye plus de changer les choses, ou alors, on va essayer de changer les choses sans être objectif, c'est-à-dire qu'en faisant encore plus de bêtises, à cause de la frustration. En revanche, on peut vivre un mécontentement justifié. C'est-à-dire, on est préoccupé devant des circonstances difficiles et on va tout faire pour changer si possible. On va essayer de faire les choses, c'est-à-dire qu'on est actif. Le frustré, soit il fait rien et continue d'être frustré, soit il fait quelque chose, mais de façon irraisonnée. Alors que celui qui a un mécontentement justifié, on parlait, on a réunion de staff à midi, on en a une. Imaginons qu'on parle de l'accueil dans l'église et... c'est mal organisé, où il y a des erreurs de fait, et ce qui fait qu'il y a des nouveaux qui viennent, personne ne leur a parlé, les gens sont partis, on ne sait pas qui ils sont, et ça se passe comme ça deux semaines de suite, trois semaines de suite. C'est normal que le pasteur ou les dirigeants soient mécontents. Parce que, mais si le dirigeant, il est frustré, pourquoi il est frustré ? Parce qu'il n'ose pas le dire aux gens, parce qu'il n'a pas une idée pour changer les choses, donc il fait le constat qui est juste, mais il ne rentre pas dans quelque chose de productif et d'actif. Donc il va être frustré. Et du coup, les relations, bonjour dans l'église. Alors que s'il est mécontent, eh ben, il va mettre les cartes sur table, voir les gens, pas avoir peur d'affronter la situation, pour arrêter d'être frustré, pour arrêter d'être mécontent. Donc le mécontent va de l'avant. Vous voyez ? Et c'est valable dans tous les domaines de l'existence. Si par exemple je dis mon enfant, il ne travaille pas à l'école, alors il peut y avoir... Il n'est pas bon à l'école, il y a plein de raisons, d'accord ? Mais si la raison est que il a peut-être, je ne sais pas, il faut plus d'attention, enfin, peu importe. Mais ça, c'est je suis mécontent qu'il travaille mal à l'école, mais je suis actif, je vais arrêter ce mécontentement en trouvant des solutions. Le frustré, c'est le parent qui dit, mon enfant, il travaille mal à l'école et tout, puis on va le dire aux autres, des fois devant l'enfant en plus. Mais du coup, ça révèle la frustration du parent, mais il n'y a pas de solution. Donc ça reste de la frustration. Et alors du coup, le gamin va se taper des émotions négatives. J'aime assez ce film qui est une bonne description sociale, je trouve, je ne sais pas si vous le connaissez, ce film qui s'appelle « Un air de famille », avec Bakri, Jaoui. Ça se passe dans un café-restaurant. Et à un moment donné, la famille se réunit, puis les belles-sœurs, je ne sais plus, ils s'échangent des nouvelles. Et puis, il y en a une qui demande à sa belle-sœur des nouvelles de ses enfants. Elle dit, l'aîné, lui, très bien, je ne sais plus comment il s'appelle, il travaille très bien et tout. Puis, mais par contre, le second, Tu sais ce qui m'a fait la dernière fois ? Une angine. Ah, je trouvais vraiment excellent. Mais des fois, c'est ça, quoi. La frustration, tu vois. Lui, il me pose des problèmes, tu vois. Et, alors que l'autre, tout va bien. Tu sais, mais ok, bah, soigne son angine et puis ça ira mieux, quoi. Voilà, la mère frustrée, quelque part. Donc, mais on peut être comme ça dans la vie. Tu sais, on fait des constats qui sont des fois exacts, mais ça engendre la frustration, c'est-à-dire une émotion négative. Et qui en fait, vous remarquez qu'à chaque fois que c'est négatif, ça ne produit pas de fruits. Il n'y a pas de solution. Il y a comme une paralysie quelque part. Ou de la destruction. Alors que quand il y a une émotion positive, face à des choses objectives, on va aller de l'avant pour changer. On a la capacité de changer l'émotion. C'est subtil, hein. Mais comme du coup, on ne fait pas la différence entre les deux, bah, des fois on se dit, ah ouais, cette émotion, je ne devrais pas l'avoir. Alors on se culpabilise, alors que non, elle est peut-être positive, ça t'aide à aller de l'avant. Donc on ne discerne pas tout ça. Donc le mécontentement justifié, c'est qu'on est préoccupé et on va tout faire pour changer les choses, ou si on ne peut pas, on demande l'aide de Dieu. On croit que Dieu peut changer les choses, mais que ce n'est pas figé. Et on voit ça, alors lisez si vous voulez, on n'a pas le temps de lire, mais Philippiens 1, versets 12 à 18, qui parle de ça. C'est-à-dire que Paul fait le constat que tout le monde ne marche pas correctement. Donc il est mécontent, mais il n'est pas frustré, il n'est pas amer. Et donc il propose des solutions. Et le dernier point, c'est la différence entre l'anxiété, alors ça ressemble un peu à l'angoisse, mais vous allez voir, c'est un peu différent, mais le couple anxiété-prévoyance. L'anxiété, en fait, c'est on anticipe un événement négatif qui va arriver. On dit, oh là là, lui prendre une décision, c'est pas bon. Ou moi, j'ai fait une bêtise et je vais récolter ce que je suis en train de semer. Donc ça, c'est l'anxiété. Donc là aussi, le constat peut être objectif. La seule chose, c'est que je me place dans une sphère où la solution, à la fin, elle ne sera pas bonne. Je suis anxieux. Par contre, la prévoyance, c'est que je vais anticiper un événement pour que ça se finisse bien. Et donc, c'est, je vais accepter de me remettre en question. Je vais accepter des fois de faire des choses qui ne m'arrangent pas. Je prévois. Par exemple, t'as la personne, je suis anxieux, j'ai peur de faire une crise cardiaque. Ah bon, pourquoi ? Bah, ma mère en a fait une, ma tante en a fait une, mon grand-père en a fait une, voilà. Donc, moi j'en ferai une. Ça, c'est l'anxiété. Prévoyance, j'ai peur de faire une crise cardiaque. Je vais voir mon médecin, je fais du sport, je fais attention à mon alimentation, j'anticipe. Je ne contrôle pas tout, mais j'anticipe. Donc, c'est plus l'anxiété, c'est la prévoyance. Les deux parlent de l'avenir, mais il y en a un qui est figé, et l'autre il prévoit. Il se dit, ça, peut-être que j'aurai quand même une crise cardiaque, mais je fais tout ce qui est dans ma sphère, dans le domaine du possible, pour faire les choses. Donc, c'est pareil dans l'éducation. Mon enfant, là, j'ai peur un peu pour lui dans l'avenir. Bah, j'essaie de prévoir. Ça marchera peut-être pas, mais au moins je prévois. Mais rester dans l'anxiété, ça n'apporte pas de solution. Donc, du coup, il y a une réaction à une information. L'information est correcte, mon enfant a un problème, mais cette réaction produit de l'angoisse, de l'anxiété. Donc, pas de solution. Par contre, si c'est, ok, il y a ça, objectivement, je le vois, donc je vais prévoir quelque chose. Et là, je deviens acteur de mon existence et pas dans une forme de fatalisme. Donc, je m'arrêtais là, mais c'était juste un peu un survol. Alors, on pourra approfondir, hein, mais juste un survol de tous ces paramètres pour vous dire que, un, je répète, les émotions ne pensent pas. Les émotions, c'est comme un réactif. Et donc, on ne doit pas prendre des décisions sur, un comportement ou une caractéristique de l'être humain qui en soi ne pense pas. Donc il faut penser avec des traits objectifs. On a vu, alors je ne vais pas lancer le débat, c'est pas le sujet, mais on a vu durant le Covid, avec la peur de la mort, bien sûr, plus les anti-vax, pas vax, etc. Mais des fois, il y avait des discussions, c'était uniquement sur les émotions. C'était pas des faits factuels, vous voyez. Et donc, et on est dans une société de plus en plus où il n'y a plus de fond. C'est que de l'émotion. Voire même, je suis désolé de le dire, là on touche un peu à la politique, mais ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale dernièrement, c'est typique de nos sociétés, c'est navrant. Mmh. C'est-à-dire que le fond n'a pas été débattu, ça a été de l'émotion en permanence, des cris, des rires, des moqueries, de la colère, que de l'émotion. Et en plus, pour susciter de l'émotion, quelques mots suffisent. Pour mettre sur la table la vérité, il faut du temps. Et comme aujourd'hui, on est une société, on n'a pas le temps, il faut que le gars, il balance une phrase comme un slogan, parce que ça va être repris après par les chaînes d'infos, etc. On ne creuse pas, on ne prend pas le temps de lire. Moi, j'ai lu un tweet, mais je n'ai pas lu un livre. Mais je crois que grâce au tweet, je sais tout. Vous voyez ? Et le gars qui arrive à faire un bon tweet, il va manipuler les gens, alors que si les gens lisaient un bon livre, ils seraient plus manipulés par le tweet. Parce que les gens ne regardent pas sur le fond. C'est pareil au niveau de la religion, de la Bible. Les gens croient connaître le christianisme, ils ne le connaissent pas. Mm-hmm. Même des chrétiens. Mm-hmm. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu la Bible. Mm-hmm. Donc, ça prend du temps de connaître la Bible. Il faut travailler sur le fond. Mm-hmm. Et puis après, on va pouvoir gérer les émotions, gérer nos décisions et avancer dans la vérité. Que du bins.
Amen. Amen. Amen.